Bienvenue à cette édition de La Vie en BD. Raymond Poirier au micro. Toujours un plaisir de vous retrouver pour parler 9e art, pour parler bande dessinée et pour parler avec des collègues, des lecteurs, des gens qui sont intéressés par la chose BD-esque et par l'art séquentiel. Alors, c'est un plaisir donc de retrouver les collègues du Club de lecture puisque oui, aujourd'hui, on est à l'édition du mois où on est en mode Club de lecture. Alors, je fais un rapide tour de table, entre autres, dans le coin gauche du côté de chez Pantoute, Marco Duchesne, bonjour.
Bonsoir.
Et également, du même lieu, Édouard Tremblay, bonsoir.
Salut, bon, salut tes auditeurs.
Et un autre lecteur passionné, Jérôme Vermette, salut.
Salut.
Alors, et Jérôme, d'ailleurs, en fait, c'est toi qui as choisi le thème de cette semaine. Je le mentionne au passage, mais je fais un petit rebours juste pour réexpliquer le fonctionnement du club. Donc, nous sommes quatre qui aimons nous battre et nous avons choisi de lire mensuellement une BD qui était proposée par les autres. Essentiellement, donc, l'idée, c'est qu'à chaque mois, donc, il y a un lecteur qui choisit une thématique. Chacun des participants vient à cette thématique-là avec une bande dessinée. Et donc, on a quatre livres qui sont lus par les quatre lecteurs et qu'on va discuter en votre compagnie au fil de la prochaine heure. Et je disais, c'est Jérôme Vermette qui a choisi le thème pour ce mois-ci. Et le thème qu'il a choisi est un peu dans l'actualité du moment, j'ai l'impression, ou dans l'actualité de l'année également. C'est Conspiration, Paranormale et Vérité cachée. Je vous dis les quatre albums qu'il a choisi et ensuite, Jérôme, je te passerai le plancher pour le présenter.
Erreur! C'est un album que j'ai choisi, mais vous avez choisi les trois autres.
Oui, c'est vrai. Point valide. Alors, donc, je te laisserai présenter ta thématique et ton album, et ensuite, on tombera avec ceux des autres. Alors, les albums qui sont devant moi, on a Le complot, l'histoire secrète des protocoles des sages de Sion, de Will Eisner, c'est chez Grasset. On a Dilemma, de Clark au Lombard. On a Les incidents de la nuit, de David B., chez L'Association. Et également « Sacrée sorcière » de Pénélope Bagieux d'après Roald Dahl. Et ça, c'est chez Gallimard. Alors, quatre titres d'ailleurs fort différents, comme c'est désormais l'habitude avec notre nouveau concept 2021-2022. Et Jérôme, quelques mots sur le thème, quelques mots sur ton choix.
Mon Dieu, le thème, c'est pas tellement difficile. De manière générale, j'essaie souvent de prendre un thème qui fit avec la période durant laquelle je dois le faire. Je te rappellerai que la première fois que j'ai proposé un thème, c'était l'horreur, puis on tombait au mois d'octobre pour l'Halloween. Mais là, cette année, ça a été pris, puis on en avait déjà parlé. En même temps, j'aime bien parler de choses qui sont plus, plus sombres, plus cathartiques, je sais pas trop. Et je trouve que le complotisme, dans la dernière année qu'on a passée, ça a mis pas mal de monde sur les dents, il me semble, les fausses nouvelles, le complotisme et tout ça. Donc, je me disais, il y a sûrement quelque chose à faire avec ça. Et pour être sûr qu'on ait suffisamment de BD, tout le monde, c'est là que j'ai embarqué le paranormal et tout. Donc, en même temps, je me disais, moi, je ne suis pas du complotiste et tout ça, mais il y a une affaire qui me fascine à chaque fois avec ces théories du complot-là, que ce soit celle qui a un État, reptilien qui nous gouverne tous, ou que ce soit la théorie de la Terre creuse, etc. Ce qui me fascine toujours, c'est à quel point ça fait des fichus de bonnes histoires pareilles, généralement. Fait qu'à la rigueur, on peut découvrir ça. Puis c'est un peu ce qui est arrivé ce soir. Je trouve ça plutôt sympathique, finalement. On a un peu de tout, là, de la du documentaire jusqu'au fantastique pur. Bref, la bande dessinée que moi j'ai pris est plus proche de l'idée d'un complot historique qui rappelle un peu, à certains égards, le pendule de Foucault d'Umberto Eco. Donc, moi, c'est Dilemma de Clark. C'est la deuxième BD de Clark que je propose, d'ailleurs, dans le club de lecture, mais totalement différent de ses réalités obliques. Donc, dans le fond, Dilemma se déroule en deux temps. Un récit qui est en deux temps en parallèle, donc une partie qui est durant la veille de la Deuxième Guerre mondiale et pendant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne. Et l'autre partie, elle, se déroule dans la Grèce antique, particulièrement aux alentours d'Athènes, à l'époque des grands philosophes comme Platon, Aristote, Xénophon, donc d'ailleurs, qui sont des personnages qu'on voit donc. Pour résumer le plus facile, en espérant résumer le mieux possible cette histoire-là, c'est que dans les années 30, un archéologue allemand trouve trouve des urnes pleines pleines de parchemins antiques sur lesquels sont inscrits un débat entre philosophes, des minutes d'un débat entre philosophes. Et parallèlement à ça, ben, c'est ce qui se passe dans l'Antiquité, c'est que ces philosophes-là qui sont... je vais peut-être avoir besoin de la mémoire de ceux qui sont plus forts en études antiques avec moi, mais il y avait Platon, le plus jeune, c'est Aristote, il y a Xénophon, puis l'autre, je pense, c'est un Diogène, hein, c'est ça, c'est un cynique, je crois, lui, c'est ça, hein? Oui, c'est ça. Alors, donc, puis Xénophon, qui, lui, était un ancien militaire, si ma mémoire est bonne, puis ils font beaucoup de liens là-dessus. Alors, eux, leur idée, c'est qu'ils vont amener la pensée de Démocrite jusqu'au bout, d'essayer de montrer qu'on peut contrôler le destin du monde. Puis, ils mettent en place toute une histoire du monde à partir du moment où eux, ils vivent, jusqu'à, on finit par le comprendre, ce qui devrait être la Deuxième Guerre mondiale, et ils espèrent que toutes les nations vont se lier. Alors, vous comprendrez que ce qui se passe, c'est que l'archéologue lui-même finit par se faire poursuivre par des gens d'une société secrète qui sont en lien avec ceci. Donc, on en parle tout à l'heure.
Alors, ça, c'est Dilemma de Clark. Je vais sauter au mien. En fait, de mon côté, c'est le deuxième David B. d'ailleurs que je propose dans le cadre de cette club de lecture-là, mais il est totalement différent de l'ascension du haut mal. Alors, il s'agit des incidents de la nuit. C'est une série en trois tomes que produit David B., toujours inspiré de ses rêves. En fait, on reste un peu dans l'archétype de David B. Et également, il choisit de se mettre en scène. Donc, vraiment, c'est ses rêves à lui. On voit, à un moment donné, son frère qu'il avait introduit dans l'ascension du haut mal apparaître aussi dans le récit, mais vraiment dans des fictions, dans des versions fictionnalisées d'eux-mêmes. Et on découvre, dans le fond, un large complot paranormal ancré, empreint de vérité cachée, essentiellement. Donc, un complot qui est centré autour du dieu N, qui est le dieu du chaos. Un complot qui est centré autour de l'univers littéraire, donc des livres qui sont porteurs de différents savoirs, qui sont porteurs des assises de la ville de Paris. Et tranquillement, ça pile d'épisode en épisode, d'élément en élément. Il y a des morts, il y a des résurrections, il y a des révoltes de clochards. Paris qui est mis à feu et à sang presque à la fin du deuxième. Donc bref, c'est une explosion d'événements dans le style graphique qui est propre à David B. C'est superbe, toute l'approche visuelle. Donc j'avais vraiment envie de vous proposer ça. Et clairement, ce thème-là m'a donné une belle excuse là, pour le faire. Et vraiment, on est dans deux complots fictifs, le mien un peu plus que celui de Jérôme dans les Assises. Et Édouard, toi, tu as été vers quand même quelque chose de réaliste et de réel.
Ben oui, j'ai décidé encore pur hasard, comme la dernière fois, de me tourner vers quelque chose de peut-être un petit peu plus, un petit peu plus documentaire, en fait, mais qui s'attaque à peut-être une des pourritures les plus insidieuses de notre siècle, quelque chose qui se traîne justement depuis la fin du 19e siècle, depuis Napoléon III. Écoutez, on peut pas croire qu'on traîne des idées aussi bêtes que ça depuis aussi longtemps. Et donc, c'est une BD justement qui a été faite par Will Eisner, hein, le grand maître du roman graphique, un des plus grands BDistes américains, un gars que j'adore aussi, qui est vraiment découvert. Et donc, et qui lui-même, évidemment, qui est d'obédience juive, lui également. Et donc, pourquoi c'est important? Parce que, justement, dans Complot, on s'attaque à ce qu'on appelle les protocoles des sages de Sion, qui sont un assemblage, une récupération, littéralement, d'un texte qui s'adressait à complètement autre chose et qui exposerait, en fait, les tenants et les aboutissants d'une espèce de grande cabale, d'une espèce de grand cercle d'Illuminati qui, bien évidemment, pour les cas ici, sont juifs, et donc qui dirigent comme ça, hein, contrôlent le monde, l'économie mondiale, la politique, en sous-main, en secret, depuis des décennies et des décennies. Vous me voyez venir, hein, c'est une idée qui a été reprise intensément par tous les tenants de l'idéologie nazie. Mais c'est quelque chose aussi, si vous êtes au courant justement un peu de l'actualité, si vous entendez un peu parler de ces théories stupides du grand remplacement, comme quoi les Arabes ont une cabale qui veulent remplacer le monde. Hein, on aura l'occasion de revenir sur l'absurdité de la chose, mais donc, c'est comme je disais, c'est un complot qui est vrai parce qu'il y a des milliers de gens qui en ont fait les frais, mais qui repose sur des assises probablement encore plus farfelues et encore plus improbables que les incidents de la nuit. Là. Voilà.
Alors, la sélection d'Edouard. Et on termine, vous l'aurez deviné, Marco, qui s'est laissé influencer par son cœur d'enfant et qui a choisi Sacrée sorcière de Pénélope Bagieu.
C'est drôle parce que mon choix vient du fait que, quand à sa sortie, j'adore Pénélope Bagieu. J'aime ce qu'elle fait. Et ça, j'avais comme pas lu à sa sortie Sacrée sorcière.
À la sortie du livre de Roald Dahl? Ou
non, du Pénélope, la BD. Roald Dahl, je pense pas, là. Et il est passé l'adaptation récente au cinéma. Un film récent a été fait avec Anne Hathaway, entre autres, et que j'avais bien aimé. Alors, dès que j'ai vu ton thème complot, paranormal et vérité cachée, je me dis « Ah, mais ça les contient tous! » Ça les contient. J'ai 3/3. Alors, je me suis tout de suite dit, ah, ça va être mon choix, et j'ai lu, ça m'a donné l'occasion de lire le Pénélope Bagieu.
Alors, on a mis la table pour les 4 titres du mois. Édouard Tremblay, je pense que c'est ton moment de gloire, ton moment de gloire mensuel où tu fais les ponts.
Ben, comme toujours, hein, essayons d'y aller. Encore que si vous voulez faire de la transition, allez-y. Moi, je suis toujours bien, bien ouvert à vos expériences. Puis, tu sais, vous plantez, c'est pas grave, là. Mais donc, oui, hein, quatre BD de complots. Deux complots, je dirais, avec des assises peut-être un petit peu plus historiques. Deux avec des assises clairement plus surnaturelles, appelons-les, donc, et ésotériques. Et donc, je me disais, commençons donc directement peut-être par des trucs un petit peu plus concret. Allons-y avec le mien, allons-y avec complot, qui est, je pense, encore plus que dilemma, hein, comme il repose justement sur des choses qui existent bel et bien. Je vous refais pas, évidemment, hein, l'introduction. Je vous ai expliqué un peu le contexte derrière tout ça. Justement, moi, pourquoi complot m'a tellement marqué, au-delà de la véracité de la chose, justement, du fait que c'est quelque chose qui a eu et qui a encore une utilisation concrète dans notre monde. C'est que c'est pas quelque chose qui a été comme contredit hier, ou c'est pas quelque chose dont les arguments pour défaire ce complot-là sont apparus la semaine passée, là. Dès qu'on a fait paraître, en fait, l'ancêtre de ce qui était les protocoles de sages de Sion, qui s'appelait, si ma mémoire est bonne, Montesquieu aux enfers, Machiavel et Montesquieu aux enfers, déjà là, et c'était déjà un outil de propagande, en fait, pour Napoléon III, déjà là, on avait déjà des gens qui, par le menu, de long en large, nous avaient montré que tout ça n'était qu'un paquet d'âneries, que tout ça ne se tenait pas. Mais pourtant, ça a quand même été récupéré un peu plus tard par le tsar pour combattre la révolution bolchevique. Ça va être récupéré plus tard par la société de Tulé, par les nazis, pour combattre, ou en tout cas pour justifier, bien sûr, l'achat et tout ce qu'ils vont persécuter des Juifs, bon, des marginaux et autres. Et, comme je le disais, ça va être récupéré encore aujourd'hui. Et donc, c'est quelque chose... C'est un couteau qui est émoussé à chaque fois qu'on le sort de son étui et qui est réaiguisé à chaque fois pour recontinuer à faire du mal, recontinuer. Je vous dis, c'est une chose qui est à la fois extrêmement fascinante et absolument épouvantable.
Puis Will Eisner, on voit bien là-dedans que c'est un maître qui, ça fait longtemps qu'il en fait de la bande dessinée. Il l'a dit dans son introduction, j'ai consacré ma vie à mettre des récits en images puis à montrer comment c'est compréhensif. Donc, les gens qui ne connaissent pas le protocole des sages de Sion, c'était mon cas avant qu'Edouard présente son thème, la manière dont il a monté sa bande dessinée, c'est absolument fascinant. Je veux dire, on comprend tout, là, d'où ça vient et tout ça, et on voit que ça a été documenté, je pense qu'il a travaillé là-dessus sur 20 ans, quelque chose comme ça.
C'est l'œuvre de sa... Pour lui, c'est l'œuvre de sa
oui,
vie.
Tout à fait, puis c'était important pour lui. Donc, il commence, hein, donc avec l'auteur de Machiavel et Montesquieu en enfer, qui veut faire une propagande contre Napoléon III, puis après ça, la police secrète russe, etc. Mais il y a un chapitre là-dedans que je trouve... puis là, c'est comme lui qui se démarque le plus, selon moi. Là, c'est celui où le Russe en exil veut vendre ses découvertes comme de quoi ça a été monté de toutes pièces là, par les deux textes, où tu as un journaliste qui lit les choses. Alors, donc, Eisner, mais... En parallèle, pendant un très long chapitre, des extraits du livre de Maurice Joly et les extraits des protocoles des sages de Sion, il le montre très bien à quel point c'est flagrant que c'est une copie. un œuf de faussaire, puis en même temps, ses personnages commentent ce qu'on vient de lire. C'est très, très didactique, puis en même temps, c'est jamais ennuyant. C'est vraiment une œuvre passionnante, puis avec le trait de dessin de Eisner, qui est toujours fabuleux. Là.
Et c'est ça, il alterne. En fait, c'est un documentaire, mais sérieux, là. Et il n'y en a pas beaucoup à l'époque. Il faut se rappeler que quand il a commencé à travailler là-dessus, il n'y en a pas beaucoup. Là. Mais sa minutie, on peut le voir dans son œuvre. Quand je parle dans son truc sur la ville de New York, Big Apple, ou je ne me rappelle plus, à un moment donné, il y a toute une histoire qui est sur Drops Avenue, où on voit un quartier sur 25 ans, où on voit un immeuble. Le personnage de cette histoire-là est un immeuble qu'on voit. On voit arriver les nouveaux arrivants, on voit les familles s'installer, on voit amener le changement ethnique du quartier. Et là, ça, c'est avec une minutie narrative qui met... Mais là, il ne peut pas être aussi fluide. Donc là, il applique les conversations dans un café avec l'activité autour, avec les flashbacks ou les scènes... d'action.
De Maurice Joly au début. Ouais, c'est les policiers ça. Qui parlent de Maurice Joly. C'est alors, super bien trouvé, ça.
Alors, effectivement, moi, il a fait deux documentaires. Il a fait Le Complot, puis il a fait un truc sur les extraterrestres où un type est assis, il fait partie du SETI, cette fameuse organisation qui écoute l'espace. Alors, il a fait un documentaire là-dessus, mais bon, elle était un peu, fictionnelle, mais quand même, il y avait encore là une espèce de... Alors, pour lui, je pense que pour que ça soit efficace, et surtout là-dessus, ça y tenait à cœur, vu qu'il était juif lui-même, pour que ça soit efficace et que pris au sérieux, parce qu'il fait de la BD, oui. Je pense que c'est ça qui fait en sorte que cette recherche-là de détails, mais avec mis en scène, là...
Oui, puis avec l'empilade, en fait, parce que je pense qu'il réussit à travers ça, à créer un rythme, puis t'amènes un peu sur l'aspect de la fluidité du récit. Je trouve qu'il y en a quand même une belle parce que tout s'imbrique un peu des uns aux autres. Puis à un moment donné, quand on dépasse un peu la mi-récit, qu'on en arrive un peu dans le dernier tiers, là, c'est justement, il y a l'article qui sort qui dit bien, on va enfin démentir ça. Finalement, non, les nazis, tu le disais, Edouard. Après ça, finalement, il y a telle affaire qui sort, on va enfin démentir ça. Puis non, finalement. Puis on va le démentir. Puis là, Eisner qui met en contexte aussi, lui, qui est un autre démenti, qui s'ajoute à un échafaudage, dans le fond. Et au bout du compte, on nous fait l'histoire, oui, des protocoles, mais oui aussi, d'abord, peut-être aussi, de toutes les tentatives qui ont été faites de démentir cet ouvrage-là, de dénoncer cet ouvrage-là, et éventuellement, par la logique, de le sortir de la circulation. Et au bout du compte, ben, Eisner s'insère dans sa propre narration, je pense qu'il le fait aussi à un moment donné. Et donc, ça devient une mise en abîme qui est quand même intéressante, et malheureusement, qui donne aussi, d'une certaine façon, et d'autant en regardant ce qui se passe actuellement et le fait que ces textes-là sont encore pris au sérieux, malheureusement, par certaines franges de la société, et donc qui nous amène vers une fin un peu amère sur le fait que finalement, ben, la désinformation a tellement été forte, le mensonge a été tellement répété, qu'on n'est tout simplement plus capable de s'en débarrasser. Et c'est un constat qui est assez morne aussi sur l'humanité puis sur notre capacité à se remettre en question, sur les chambres d'écho. C'est, on intègre ça dans les débats sociaux actuels, dans les biais de confirmation qu'on observe sur les médias sociaux. Et le reste, je veux dire, c'est d'une actualité hallucinante dans le débat sur la désinformation aussi. Et ce genre d'ouvrage-là, ce genre de démonstration-là devrait être mis de l'avant également dans ce contexte-là. Pour moi, c'est une démonstration magistrale. C'est fort et c'est choquant, mais ouais. Choquant qu'on en soit encore à ce point-là 200 ans plus tard, mais sur plein d'autres sujets aussi, en plus.
Énormément. Et c'est, je pense, le point aussi que Jérôme avait très bien souligné, c'est que ça se comprend bien. Eisner a vraiment fait une œuvre de vulgarisation avec, encore une fois, le truchement de la BD qui va nous rendre ça encore plus clair. Et je pense que pour quelque chose comme ça, c'est d'autant plus viable et d'autant plus important que, justement, je vous dis, c'est sûr que si je vous dis, tu sais, j'arrive à quelqu'un qui lit pas beaucoup, qui dit, écoute, je vais te prouver que les protocoles des sages de Sion, c'est de la bouette. Je veux dire, qu'est-ce qu'il y en a à foutre, là? Je veux dire, lui, il voit passer des trucs et tout. Et ça renvoie justement à ce que Raymond disait aussi, et la bonne vieille phrase de Goebbels, tu sais, répéter un mensonge assez souvent, ça va devenir une vérité. Et c'est pour ça qu'il faut qu'à chaque fois revenir, mais il faut qu'à chaque fois, ça soit justement de plus en plus accessible, de plus en plus de gens. Et c'est ce qui est bien avec la BD d'Eisner, comme je vous dis. tu sais, vous n'êtes pas obligé de connaître le passé des protocoles, vous n'êtes pas obligé de connaître rien sur ce sujet-là, et ça va peut-être être même encore plus extraordinaire, parce que vous allez voir, justement, vous allez dire, ça n'a pas de bon sens qu'on entretienne encore un truc comme ça. Ben non, c'est ça. Mais c'est en même temps, ça renvoie, je pense, aux éléments, justement, même du complot, à proprement parler. C'est-à-dire, un complot, tu sais, c'est quelque chose qui a des ramifications, c'est quelque chose qui a des, tu sais... qui est construit, c'est quelque chose qui s'élabore sur plusieurs siècles.
En fait, c'est, ce qui est étonnant là-dedans, c'est que le complot, au bout du compte, c'est même pas les Juifs qui l'ont fait. C'est...
Ben non, c'est du n'importe quoi. Là.
Juste pour faire du pouce à ce que tu dis, parce que pour terminer sur le cas de Eisner, dans le fond, c'est que ce qui est intéressant, c'est que lui-même l'a dit, puis ça a été publié quoi, en 2004, je pense, en fait, oui, même. Tu sais, c'est ça, là. il l'a dit lui-même, la raison pour laquelle il a choisi de le faire en bande dessinée, outre le fait que ça le touchait comme sujet, puis tu le disais, il est d'obédience juive, c'est qu'il voulait être lu. Il voulait que les gens savent c'est quoi, parce qu'il disait le protocole des sages de Sion, c'est des universitaires qui l'étudiaient un peu à la manière, là, justement, que la co-autrice de Christa Kennel a dit « Je veux faire en bande dessinée le truc de Végantique, parce que je veux que ce soit lu. » Tu sais, c'est ça, pour que les gens se l'approprient d'une manière qui soit facile et non pas que ce soit tabletté et juste anti-spécialiste. Ça, c'était la première chose et je trouve qu'il a super bien réussi. Il en fait l'histoire, ce qui glace le sang, comme le faisait dire Raymond, savoir à quel point on dirait que même si on a beau avoir cette preuve-là, puis hors de tout doute raisonnable, là, parce que c'est très bien montré qu'on a eu les documents de celui qui a créé ce document-là, qui était pour convaincre, si ma mémoire est bonne, Nicolas II, que la révolution, c'était les Juifs qui allaient amener le libéralisme économique en Russie, en tout cas, puis que c'était dangereux, là. Et puis comment ça est devenu un outil puissant entre les mains de gouvernements encore plus dangereux. Puis là, maintenant, ce qui me glace le sang là-dedans, c'est de voir à quel point, justement, il y a des gens, comme tu dis, qui croient encore. Puis c'est ce qu'on voit encore de manière générale, puis c'est troublant, là, de voir à quel point, dans tout ce qu'on a vu cette année, il y a des gens, tu leur montres, t'as beau leur dire, regarde, c'est démontré, c'est ça.
Non, mais c'est l'aspect insidieux, c'est extraordinaire. Et surtout, on parle, bon, par exemple, justement, l'antisémitisme. Écoute, ça remonte à l'excuse de « Ah, oh, les Juifs ont crucifié Jésus ». Mais là, ça fait 2000 ans, ça, là, tu sais. Mais je veux dire, ils se sont récupérés de ça pendant le Moyen-Âge. Ils se sont récupérés de ça pendant... Je veux dire, ils vont réchauffer ça. Et c'est ça aussi un complot, hein. C'est toujours...
Mais il y a aussi, on vit l'époque de la paresse intellectuelle. Là. Non, mais ça, là, c'est magnifique. Là. Je veux pas en mettre de l'huile sur le feu, mais ces fameux Tintin, Astérix et Lucky Luke qu'on a brûlés et tout. Moi, la réponse à ça, ça a toujours été, c'est bien plus facile de brûler que d'éduquer. J'avais une conversation avec quelqu'un qui aime la BD et tout, puis il me sort, Tintin, mais les deux premiers, c'est tellement raciste. Mais là, non. Non, là, je me suis assis avec lui et j'ai expliqué, là. J'ai dit, d'abord et avant tout, il faut que tu remettes dans le contexte, il n'est pas raciste, là. Tu sais, Hergé était de son époque et tout, il y a une paresse intellectuelle, tu sais, d'arriver. Puis je me rappelle sur Internet, maintenant, c'est que des images. Tout fonctionne avec des images. Tu envoies une image, puis elle est prise pour acquis que c'est vrai. Tu sais, il y a des complotistes du 11 septembre, à un moment donné, dans une émission, les francs-tireurs, je ne me rappelle plus qui interviewait un espèce de complotiste, puis il y avait une photo du Patagone, puis et là, il y avait le trou béant et tout, puis là, il fait « Mais où allait l'avion? » Et là, l'animateur fait « Oui, mais elle s'est désagrégée et tout, mais il dit, elle vient... » Puis là, l'animateur fait « Elle vient d'où ta photo? » Internet. Je veux dire, sa source était des photos. Alors, et c'est pour ça que aujourd'hui, c'est encore un exercice comme le fait Will Eisner, aussi minutieusement recherché, aussi minutieusement détaillé, dans un. Et de prendre la BD comme. Rendre ça accessible, fluide, et avec le talent et le génie qu'il a, évidemment, ça devient plus ennuyeux du tout, là. Mais ça, c'est comme passé date, encore une fois, parce que on est dans la paresse, on ne fait pas de recherche. Et source, la première chose que l'on voit, c'est la première... La Terre est plate, t'as une photo, puis tout le monde va y croire. Tout le monde va y croire.
En fait, c'est l'argumentation un peu par les mimes puis les phénomènes Internet où on sursimplifie le débat. Et au bout du compte, le débat, ben, on débat à coup de deux phrases, au bout du compte. Mais c'est pas avec ça, effectivement, qu'on va construire une pensée. Peu importe la pensée qu'on cherche à construire, il n'y a pas une réflexion profonde qui va mener de ça. Et en sursimplifiant le débat, ben, est-ce qu'on est en train de le tuer aussi? Je veux dire, là, on ouvre des boîtes de Pandore sur les fractures sociales qu'on est en train de développer, sur les fractures idéologiques, sur les chambres d'écho, etc. Je veux dire, et pour revenir à Eisner, c'est que c'est le genre de discussion qui va émaner de ça. Je veux dire, faites un club de lecture autour de cet album-là avec vos amis, avec vos chums. Ça va tourner autour de ça. Ça va amener à ces discussions-là. Ça va apporter quelque de l'eau au moulin. Et c'est impossible de ne pas le rattacher à ce qu'on vit actuellement non plus, parce que bien, ça reste extrêmement actuel. Et ce complot-là qui a pris naissance dans les années 1800, bien, au bout du compte, démontre quelque chose qui est encore pertinent aujourd'hui. Et c'est dommage parce que au bout du compte, on a à ce point évolué sur bien des choses, mais sur d'autres choses, à quel point bien, il y a des éléments de nous qui sommes restés cristallisés à des modes de fonctionner dans le fond, dépassé.
Faut dire quand même à la défense de ce pauvre Will Eisner que pour chaque Will Eisner qui sort comme ça une BD qui défait un complot, on a un Clark qui nous arrive avec un complot historique qui vient tout scraper. Non, non, je blague parce qu'évidemment, la BD est de Clark est très, 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 très agréable, mais j'ai trouvé ça extrêmement, extrêmement hilarant, extrêmement drôle parce que oui, juste d'un côté, j'avais Eisner qui défait tous les grands complots nazis entretenus depuis des siècles et tout, et de l'autre, cette splendide histoire qui va prendre son assise au cœur même de la Grèce ancienne et qui va nous proposer quand même que ces vieux Grecs-là, que ces vieux penseurs-là ont prédit notre avenir, ont prédit chaque guerre contre-coup, chaque évolution, qu'ils l'ont planifié pratiquement jusque dans ses moindres détails, en sachant même pas comment, évidemment, les États avaient évolué, parce que tout ça, non, tout ça, il y a le contrôle, là, tout ça, il y a... On a là, je pense, l'épitome du club des Illuminati. C'est, tu sais, en termes de complot, tu sais, je veux dire, c'est comme ça qu'on veut rêver
un complot mondial. La psycho-histoire avait été invitée en Grèce ancienne,
Ouais. Mais c'est comme ça qu'on veut un complot historique, là. On veut que ça ait l'air de ça, parce que j'avoue que j'étais scotché sur les pages tout le long. J'ai adoré, justement, les parallèles et tout, puis reste que ça renvoie malgré tout aussi à une question qui, elle, est débattue depuis, tu sais, je veux dire, la question du déterminisme, la question, est-ce que, justement, notre avenir est tracé? Est-ce qu'on le trace nous-mêmes? Est-ce que, tu sais, disons que c'est un champ assez large pour ouvrir un paquet de possibilités de débats et d'idées derrière ça, là.
Oui, et pour faire suite au déterminisme, le plus drôle de l'histoire de cet album-là, Clark en avait fait deux. Oui. Deux albums.
Effectivement.
Parce que ça ne finit pas pareil. Il y a un choix à la fin. L'Allemand, maintenant, se fait donner le choix par celui qui courait après depuis longtemps et qui voulait récupérer les manuscrits. Il lui donne le choix, soit divulguer les manuscrits ou soit sauver sa bien-aimée et tout. Ouais. Et là, nous, on a lu une version et il existe une autre version, mais on n'est pas obligé d'avoir acheté l'album. Je pense qu'il y avait un site Internet à l'époque.
Il est disponible sur le site des éditions.
C'est ça, hein? Il doit être encore disponible pour la fin. Alors, même
je
Clark...
confirme que c'est encore disponible. J'ai été lire l'autre fin aussi. Okay.
Moi, je m'en rappelle plus. J'ai pas été la lire, mais je m'en rappelle plus. Puis je sais que j'avais triché quand c'était sorti, là. Mais justement, il pousse cette chose-là, le déterminisme. Mais en laissant un choix à la fin, c'est pas comme un peu jouer un peu le complot de ce fameux déterminisme.
Je peux te montrer que...
Ben là, c'est ça. Là. Tout est déterminé, mais sauf que le type a un choix, alors je te donne les deux fins.
Mais il y a quelque chose de farfelu, par exemple, en lisant cette BD-là. C'est, parce que, bon, on s'entend Clark, bon, qui est plus connu pour faire mille usines, là, genre, qui est totalement un autre genre. Il est plus proche de Sacré Sorcière. sans faire de blagues. Mais Dilemma, c'est ça. Il est dans le dessin plus réaliste. Et puis, même de très, très belles images des villes européennes de l'époque de l'entre-deux-guerres, tout ça. Mais... quand tu lis ça, quand j'ai lu ça la première fois, j'ai pas pu m'empêcher de penser à un truc que disait Alan Moore, un autre grand BDiste, mais pour d'autres raisons que Will Eisner, c'est-à-dire que le complotisme intéresse les gens parce que le monde n'est que chaos, puis c'est totalement impossible qu'on puisse faire un complot de l'ampleur qu'est-ce que les gens imaginent. Puis Umberto Eco arrivait à la même chose dans son Pendule de Foucault. Les complots dont il parle là-dedans sont impossibles à réaliser avec les moyens que l'humanité dispose. Mais dans Dilemma, ça frise l'absurde, parce que là, on parle de des gens, une organisation qui existe depuis moins 300 jusqu'à aujourd'hui, là, qui se passe le flambeau de jusqu'à aujourd'hui. Imaginez la rigueur que ça prendrait. Il n'y a pas une organisation qui survit tout ce temps-là. C'est virtuellement impossible. Fait que déjà, en partant, il y a ça qui frise le ridicule, mais en même temps, la manière dont le récit est écrit, c'est un bon thriller, un thriller là, à la Da Vinci Code, si on veut, là, qui file très bien. Et puis, comme le faisaient remarquer Marco et Edouard, qui va critiquer quand même, puis ça, c'est pour ça que je le trouvais intéressant également, puis c'est les relectures qui font qu'on trouve ces éléments-là, c'est que je trouve qu'il semble critiquer à quelque part la place que la philosophie grecque, de l'Antiquité grecque, semble prendre, particulièrement Platon, semble prendre dans notre système de pensée de nos jours. Évidemment, sans le dire tel quel, sinon ça alourdirait le texte. Donc, on peut très bien juste le lire comme étant un thriller et puis on passe un très bon moment. Ça montre justement ce que je trouve qui est divertissant chez le complotisme.
Oui, mais tu amènes quelque chose d'intéressant dans la mesure où, comme tu dis, on peut le lire exactement comme si c'était un thriller. Et à la limite, on peut choisir d'en rester là aussi. Mm-hmm. Mais ça risque d'être difficile parce qu'un peu comme pour l'autre, on a quand même envie d'en jaser. Ça amène à tout le moins porter une réflexion sur l'état du monde, sur l'évolution, sur le contrôle. Je veux dire, encore là, c'est le genre de récit qui vous déporte et c'est peut-être aussi ce qui fait le charme quand on ouvre la porte du complot, c'est que ça sans nécessairement dire qu'on remet la réalité en question, mais ça nous amène à réfléchir sur notre perception, à se positionner par rapport à notre perception, par rapport au déterminisme et le reste. Et en termes de structure, bien, on y va quand même aussi, je veux dire, avec une belle alternance de chapitres. Mm-hmm. Il a réussi à bien doser les portions en Grèce ancienne. Ça désarçonne peut-être un peu la personne qui n'a pas lu le quatrième de couverture puis qui attaque l'album. Oups, OK, on se retrouve en Grèce ancienne. Qu'est-ce qui se passe? À un moment donné, on rattrape. L'histoire de l'autre côté progresse quand même assez bien. Il y a un beau crescendo. Je veux dire, en termes de structure, de scénario, c'est globalement, tout est bien fait, tout est bien structuré et on a tous les ingrédients d'un bon thriller. Mais ce qui fait passer à un livre qui est peut-être un peu plus marquant, c'est justement la dimension morale, mm-hmm, qui est mise de l'avant et les questions qui sont suscitées. Et c'est ce qui fait que probablement qu'on va se rappeler de celui-là, mais qu'on va en lire 5 autres qui lui ressemblent un peu, mais qui n'ont pas cette dimension-là, puis qu'on va les oublier par la suite.
À la limite aussi, au niveau moral, le livre montre bien un peu aussi, écoutez, mon avis, on le sent bien, là, comment c'était vivre sous le nazisme également, comment c'était vivre sous le nazisme pour les Allemands. Et bon, dans nos personnages, on les voit à la veille de la Deuxième Guerre. Hein? Donc, je pense que vers la fin, il y a eu l'Anschluss qui a eu lieu, puis la Deuxième Guerre n'est pas encore déclarée là, en tant que telle. Mais là, le personnage donc féminin, l'intérêt amoureux du personnage principal, excusez-moi, c'est une juive, puis là, elle est obligée éventuellement de porter son étoile jaune. Il commence à avoir du sabordage de commerce juif, etc. Mais également, deux Allemands notables du parti nazi qu'on voit, c'est Goebbels et le chef de l'état-major, là, excusez-moi, j'ai oublié
Speer, son nom. Albert Speer.
C'est peut-être pas
ça. Himmler.
Donc on les voit tous les deux en train de se battre sous forme d'intrigue en tant que telle et qui montre bien là, que le nazisme, c'est tout le monde contre chacun pour soi, puis un contre l'autre, puis eux-mêmes ont leur propre pression. Là. Donc c'est même pas un système qui peut se tenir là, pour l'humain en tant que tel. Fait qu'il y a ça aussi là, qu'on voit là-dedans. Anecdote que je trouve peut-être intéressante à garder en tête, parce que ça, c'est l'autre aspect de dilemme. Il prend plus d'ampleur si on a quelques éléments de culture sur, entre autres, les philosophes. Mais Xénophon, si ma mémoire est bonne, c'est un ancien général.
Tout à fait.
C'est pas lui qui a été pris en allant se battre en Perse, qui a mené avec sa gang de Grecs, il a fallu qu'il retraverse tout le continent.
Oui, tout à fait. C'est lui qui avait écrit, c'est ça, l'Anabase. Ouais, en fait, il avait été un mercenaire et tout. Mais c'est intéressant d'avoir justement la perspective de Xénophon, qui est un militariste aussi. Mmh. Et ça me ramène un peu à ce que, justement, on disait, on parlait de l'influence, de la philosophie grecque et tout. Parce que reste qu'il y a quand même ça qui pourrait être une assez intéressante. C'est-à-dire que si on enlève l'idée, justement, d'une cabale de gens qui se pensent ce devoir-là et se le perpétuent pendant des siècles, ce qui est déjà assez absurde dans mesure où, règle générale, on est pas capable de faire une réunion à 6 personnes sans que la chicane pogne. Donc, imaginez essayer d'organiser l'ordre du monde sur plusieurs siècles. Mais en même temps, reste que, bon, si on prend un exemple, justement, hein, vous allez rire de moi, des traditions japonaises, hein, des gens qui perpétuent comme ça de père en fils pendant des siècles et des siècles et des décennies comme ça, toujours le même truc. Mais c'est un peu ça, reste que c'est quand même ça, sans dire qu'on a justement, bon, une cabale de gens qui perpétuent le projet initial, reste que oui, notre civilisation occidentale repose quand même sur la pensée de ces gens-là. Et si... Il fallait qu'on trouve une minute de texte où quelques-uns de ces gens-là, ça serait juste, sans aller aussi élaboré que ça, mais ce serait juste entretenu de qu'est-ce que notre société. Je veux dire, là, écoute, hey, t'imagines-tu les théories du complot sur le net, comment ça partirait? T'imagines-tu comment imaginer, là, on retrouve une discussion entre, justement, entre Aristote et Xénophon, là, 30...
Je veux dire... À la limite, on peut imaginer qu'il est crampé sur sa table à dessin quand même, hein, après avoir écrit ça.
Lui, il a dû en rire un coup, parce que, je veux dire, ça pourrait tomber entre les mains de n'importe qui d'un petit peu, justement... Hein, farfelu, puis c'est pour ça que je te disais que c'était dangereux, Jérôme, parce que tu lis ça, puis comme, ah oh, ben oui, c'est vrai, mais, tout est organisé.
Mais il n'empêche que l'élément qui est particulier là-dedans, à se rappeler, puis tu sais, dans le complot, on le voit aussi, les nazis, eux autres, étaient déjà férus de paranormal.
Ah, bah, ouais, mais eux, c'est oui.
Ils ont cherché l'Arche d'Alliance, puis ces choses-là, tu sais, puis ça rentre dans leur corde, les protocoles des sages de Sion, puis tout ça, tu sais, toute leur imagerie est faite autour de ça.
Mais c'est ce qui est tout à fait normal, parce qu'encore une fois, qui dit complot dit ramification, comme je disais, dit complexité, mais. Quand on rentre dans la ramification, plus on la creuse, plus on veut donner une crédibilité, plus on donne une crédibilité, plus on va du côté symbolique, ésotérique, mystique, pour ajouter la plus-value par-dessus notre complot, pour lui donner, au-delà d'une assise philosophique, toute cette chose surnaturelle qui l'inscrit dans l'univers, par exemple, comme dans Sacrée Sorcière, où on est dans un complot d'ampleur mondiale, politique, incisive et tout. Mais en fait, tout ça tourne autour de volonté de sorcière de changer des petits-enfants en souris. Donc, et bon, on verra plus tard pour les incidents de la nuit, parce que oui, évidemment, la charge ésotérique des incidents de la nuit est assez forte aussi. Mais quand même, je disais déjà avec Sacrée Sorcière, ben justement, on ajoute ce petit élément de magie, ce petit élément qui rend possible le fait que ça peut être diffusé à travers le monde. Quand tu ajoutes cet élément surnaturel-là, c'est lui qui donne ta possibilité à ton complot. Là.
Et toute cette ce naturel-là, parce que le paranormal, il est naturel là-dedans. La grand-mère qui explique, maintenant je vais t'expliquer qu'est-ce qu'une sorcière et tout, il y a l'explication à ce phénomène paranormal, mais qui est tout à fait naturel. Mais moi, j'ai une affection particulière pour ce complot, car il est en étape, il est en phase. Et moi, un complot, quand il y a plusieurs phases et qu'on nous l'explique, c'est moi, je suis aux anges. Alors, phase 1, faire le poison et tout. Phase 2, tu sais, empoisonner. Mais, tu sais, c'est vrai que ça s'adresse aux enfants. Randall s'adressait un peu aux enfants, mais je pense que son humour arrive à toucher à peu près les adultes. Et ça. Mais c'est d'une simplicité. Et il nous amène tranquillement, mais on ne perd pas de temps. Là. Il nous amène tranquillement à ça. On nous explique, la grand-mère va nous expliquer les fondements de à quoi on a affaire, sorcière, surnaturelle. On l'amène dans un hôtel, il découvre le congrès des sorcières, bingo, il y a un complot en plusieurs phases, et là, on va s'en mêler.
Non, c'est vrai qu'en fait, c'est un récit qui est linéaire, et il y a le côté jeunesse, justement, qui fait que c'est un complot dans lequel on ne se perd pas, dans le fond, parce que le complot, il y a aussi une certaine simplicité. On imagine que les ramifications sont majeures, si évidemment on changeait tous les enfants en souris pendant leur cours d'école. Mais, dans le fond, il y a une simplicité dans la manière dont il est amené. Il y a une logique dans la manière dont il est amené. Mais, comme l'autrice s'est donné quand même, et l'éditeur, dans le fond, se sont donné assez d'espace pour que le récit respire, bon, on a le temps de placer les choses. Donc, on est dans l'efficacité, mais dans une efficacité qui prend son temps. D'une certaine façon, donc on place l'ambiance, on place la grand-mère, on place la relation, on place le drame du petit garçon au départ. On a le temps de vivre le drame avec lui, on a le temps de s'approprier ce personnage-là, on a le temps de vouloir qu'il arrive des bonnes choses, on a le temps de voir que la relation avec sa grand-mère, elle est riche, elle est belle, elle est pleine de tolérance. on a le temps de les amener à l'hôtel, on comprend pourquoi ils sont là, et là, whoops, un vrai plein point de bascule où l'on tombe dans ce complot-là, où le petit garçon, dans le fond, dépasse un peu ce pourquoi il se pensait destiné. Et ensuite, ben, on chemine tranquillement vers une fin qui est soit tragique, soit belle, selon l'angle qu'on prend sur l'avenir de ce petit garçon-là, évidemment. Mais je ne la révélerai pas parce qu'il faut quand même que les gens la lisent, cette BD. Mais donc, d'un point de vue scénaristique, d'un point de vue mise en scène, je veux dire, c'est extrêmement solide comme récit et j'aurais pas de gêne à proposer ça à un jeune autant que moi, comme adulte, je vais prendre un sacré plaisir à le lire, à la lire, cette BD.
C'est je pense, toute la force du travail de Bagieux là-dedans aussi, justement, parce qu'un enfant, comme on disait, va avoir beaucoup de plaisir, mais les personnages, la grand-mère, j'ai tellement adoré cette vieille impertinente, pince sans rire, qui suit ses propres lois. Je veux dire, c'est merveilleux pour un adulte aussi.
L'énergie de la narration. Moi, Dahl... J'ai pas lu de ses bouquins, mais ses univers, je les ai adaptés aussi. Il y avait la chocolaterie, Charlie, le premier avec Jane Wilder, wow, qui avait une espèce d'énergie. Tu sais, oui. Celui de Burton était plus dans le figé. Et Mathilda aussi était... Là, Bagieux arrive à mettre une énergie, mais... assez solide. Tu sais, c'est stéroïde, là. Ouais. Quand ça décolle, là, avec son dessin énergique...
Même l'humour grinçant de Dahl est encore présent, là.
Cette narration énergique-là, ce découpage-là frénétique dans les scènes où il y en a besoin.
Tout à fait.
Mais quand elle raconte, tout est classique, gaufrier même. Ouais. Tu sais? Alors, moi, je pense que ce qui est allé me chercher, c'est plus ce côté-là. Et c'est vraiment... ça m'a donné envie de lire les bouquins.
Bien, Bagieux, en fait, elle est une super bonne BDiste. Puis elle amène tout son talent, comme tu dis, à la fois de dessinatrice, de metteur en scène, parce que c'est toujours un peu ça qu'on fait quand le BDiste fait. Hein, un texte qui est déjà lui-même génial en soi, tu sais, celui de Dahl. Donc, elle se l'approprie super bien. Et avec, en plus de ça, selon moi, là, des scènes, là, ben, il y a des scènes d'anthologie là-dedans. Là, moi, la recette de la Formule 86, la manière dont elle explique ça, puis c'est quoi qu'elle met dedans, là, c'était un petit bijou. Puis elle s'est dessinée comme en parchemin, là, donc c'était vraiment génial. Puis ça arrête pas, hein. Comme tu dis, Raymond, c'est sur les chapeaux de roue, cette bande dessinée-là, là, vraiment. Là.
Et c'est ce genre de relecture qui nous rappelle, je pense, en termes de récit, je veux dire, tu l'as dit, je pense que Roald Dahl, tout le monde le connaît, mais on n'a pas nécessairement lu ses livres. Mais mon Dieu, est-ce que j'ai raté quelque chose de ne pas les avoir lus, ces livres-là, pour que ça donne des adaptations qui soient aussi solides? Mm-hmm. Tu en as mentionné quelques-unes côté cinéma et on pourrait probablement continuer un petit peu. Cette BD-là, qui est un petit bijou aussi, de façon générale. Donc, ça donne envie de pousser un peu
la
plus loin.
La mythologie des sorcières, qui est chouette aussi là-dedans, qui est hors norme, qui n'est pas celle qu'on voit d'habitude.
Qui est très simple.
Oui, très simple, effectivement.
Parce que je reviens à ça, c'est ce qui ressort. Je veux dire, comparativement aux deux histoires qu'on vient de passer, à celle vers laquelle on va se diriger, il y a une simplicité là-dedans, mais qui ne nous empêche pas de perdre l'aspect du complot, de perdre l'aspect, l'importance de ce qui est en train de se jouer dans cette salle d'hôtel un peu cheap, finalement, qu'on visite.
Oui, mais c'est... En fait, là, on a deux choses, deux éléments, je dirais, qui distinguent cette BD-là. D'abord, là, on a l'aboutissement du complot. On n'est pas en train... Tu sais, le plan et tout, elle a déjà fait sa formule, elle sait déjà qu'elle veut changer les enfants souris, elle sait déjà son plan, elle a déjà... Donc, on n'a pas cette élaboration-là, on n'a pas besoin de l'avoir. Notre sorcière suprême, tu sais, c'est the girl with a plan. Elle arrive, elle a déjà son plan, elle a déjà son complot. Mais aussi, c'est une des seules où on va retourner le complot contre les complotistes. En se servant du complot lui-même. Et ça, c'est extraordinaire aussi, parce que justement, c'est tout l'élément de dire on décortique le plan de l'autre, on décortique les arguments de l'autre, avec les protocoles des sages de Sion, tu sais. Et là, c'est avec ça qu'on convainc le complot. C'est avec ça qu'on réussit à détruire
le truc,
combattre le feu par le feu, amener les arguments dans le même domaine que celui qui s'ancre là-dedans et qui, tu sais, est pas capable de débloquer, tu sais. Alors que dans les incidents de la nuit, ben, non, c'est pas... Pure transition, comme ça. Non, laissons faire la transition, regarde. Parlons des incidents de la nuit, là. Hein? On y est, on est bien, là, il fait beau. Ça fait froid dehors, des taux chauds. Les incidents de la nuit, écoute, quel extraordinaire aventure. Je l'ai baptisé moi-même aventure théologico-littéraire.
Onirique.
Puis onirico. ouais, non, c'est ça. C'est parce qu'on pourrait y aller d'un paquet d'épithètes hein, comme ça, très, très éclaté. Mais en même temps, moi, ce qui me frappe, et même, je sais pas, ça pourrait être ça, la transition avec Sacrée Sorcière. On dit, dans Sacrée Sorcière, comme la grand-mère l'expliquait, je veux dire, tout est crédible. Je veux dire, elle explique. Là, je vais te dire la vérité, mon petit gars, les sorcières, ça existe. Voilà, 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 voilà. Ça y est, OK, on est dans notre prémisse d'histoire. Tout, on accepte tout ça. Les sorcières existent. Ici, on s'entend que David B., il en demande beaucoup au lecteur, disons, qui est très terre-à-terre. C'est comme... rentre là. Là, je suis dans un rêve, je suis dans mon monde, je suis dans mon évolution symbolique et ésotérique dans tout ça. Donc, tu sais, accompagne-moi, gratte pas trop, puis tu vois. Mais ce qui est merveilleux, c'est que tout ça se tient.
Ouais, c'est ça.
C'est ça qui est magnifique, c'est que sa logique là-dedans, avec les lettres, avec les symboliques, parce qu'écoute, on pourrait donner ce qui se parle là-dedans, mais c'est tellement dur de comme évoquer tout ça, mais en même temps, que ce soit traverse l'ancien napoléonien, que ce soit la lettre N, que ce soit les mythes babyloniens, que ce soit les structures de comment tu bâtis un libraire à Paris, tout ça
en
rapport.
En fait,
tout ça se tient.
C'est une œuvre qui est nettement intéressante, beaucoup plus intéressante selon moi à lire si on a lu d'abord et avant tout l'Ascension du Haut-Mal. Parce qu'on dirait que, parce que dans l'Ascension du Haut-Mal, David B., il explique sa méthode lui-même en tant que BDS, hein, qui se met à raconter ses rêves, puis tout ça, puis ça a toujours de l'importance dans son œuvre. Mais on dirait qu'il se crée lui-même sa propre mythologie qui prend en place. Donc Jean-Christophe qui arrive, ses personnages, son lui-même en tant que personnage, devient un peu un élément de sa propre mythologie. Puis tu as la ville de Paris. C'est vraiment incroyable, dans le fond, à quel point Paris, tu sais, des Troyens qui arrivent. Puis là, il se met à jouer la carte des histoires inventées, mais qui prennent ça, qui finalement donnent corps à la ville en elle-même, son réseau de librairies. Ça, c'est une fichue de belle trouvaille. Hein? Chaque librairie qui a sa manière de fonctionner, puis qui surveille les quartiers. En fait, à la limite, on pourrait lire avant d'aller visiter Paris, puis ce serait juste sublime après ça de marcher dans la ville, probablement.
Il y a très peu d'auteurs qui arrivent à faire ça. On peut bien conseiller aux gens de tu sais, c'est une BD qui se lit, mais pas du tout. C'est une BD qui se vit. Tu sais, embarquer dans cet univers-là, puis se laisser aller, c'est un des plus beaux trucs que tu peux... Tu sais, Marc-Antoine Mathieu, quand il fait Julius Corinthien, c'est la même affaire. Ouais. Je veux dire, il crée un univers. Si tu te laisses aller, tu vas avoir un sacré fun. Si tu décides que tu te laisses pas aller, t'as perdu ton temps. Là. Et David B., c'est ça. Et surtout dans celui-là, là, l'Ascension du Haut-Mal, ce qui était un peu plus personnel et tout. Mais là-dedans, laisse-toi aller, puis go. Tu sais, je deviens un autre papier.
Ça reste, c'est dans son ton. Je veux dire, c'est un peu comme dans l'Ascension du Haut-Mal, il y a un ton quand même assez froid, analytique, précis. Et il prend, pour raconter une histoire, une construction hallucinante, il prend le même ton qu'il faisait un ouvrage documentaire à saveur autobiographique, à saveur d'autofiction, mais à travers ça, il matine ça de journaux façon un peu 18e siècle, un peu conspirationniste, un peu paranormal. Donc, ce qui fait qu'on est toujours un peu sur la ligne entre, OK, on est dans un récit d'autofiction, dans une construction de pseudo-documentaire, et autant, après ça, on bascule de l'autre côté où on est dans un ouvrage sensationnaliste qui nous amène dans des réalités cachées. Puis, je veux dire, il y a un jeu de tonalité qui est sublime, en plus de tout le reste qui est sublime dans cet ouvrage-là.
Mais je trouve que ça fait une belle allégorie, justement, de la nature même du complot. C'est-à-dire que, tu sais, quand considérons-nous comme des gens posés quand on lit des complots, puis on voit les arguments, on voit les trucs, on se dit, mon Dieu, ça n'a aucun bon sens, c'est tellement n'importe quoi, comment ça se fait? Mais, tu sais, c'est ça aussi, là, je veux dire, faut que tu acceptes ta réalité, tu sais. Quand tu rentres dans les incidents de la nuit, je veux dire, c'est exactement comme Marco disait, là. Je veux dire, faut que tu acceptes le complot. Faut que tu acceptes que ça marche comme ça, que les éléments sont de même, puis que. Et c'est comme ça que le complot fait ça. Suffit juste de lui ouvrir la porte, tu sais. Je veux dire, les gens vont dire non, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas, ça se peut pas. Puis tout d'un coup, t'en as un qui va arriver avec un argument qui va. Ah ouais, mais ça se pourrait. Et là, voilà. Le doute est rentré, puis c'est comme ça que le complot façon.
Peut-être que un des aspects que David B., sur lequel il joue, qui permet de quand même au lecteur de s'ancrer, c'est qu'il y a quelques éléments qui pourraient être pseudo-réalistes. Il y a un policier qui fait une enquête. Il y a une journaliste d'un journal qui fait du sensationnel. Et c'est des choses qui existent. Quand ils se promènent dans les rues, ça pourrait être les vraies rues de Paris. T'sais. Mais c'est sûr qu'à partir du moment où il ouvre une porte d'un lieu, c'est comme s'il rentrait dans un univers féerique. En fait, ça donne l'impression que... C'est comme si Neil Gaiman faisait...
En fait, il ne rentre pas dans l'univers féerique. Je veux dire, c'est les portes de l'ascenseur du Shining avec le flow de avec le flow de paranormal qui nous arrive dessus. C'est à un moment donné, on se laisse emporter dans ce flow-là. Puis à un moment donné, c'est comme disait Marco, une fois qu'on commence à la lire, soit on se braque puis on n'embarque pas, soit on se laisse porter, mais si on se laisse porter, je veux dire, le courant va être
fort.
C'est
toute une vague.
Puis c'est toute une vague. Puis quand on arrive à la fin du deuxième, je veux dire, on sent qu'il y a une apothéose qui se prépare. Je veux dire,
c'est parce qu'il utilise quand même des éléments mythologiques historiques avec lesquels il joue. Tu sais, à un moment donné, quand il parle, mettons, là, de la révolte des gueux, ça rappelle un peu la fête des fous au Moyen Âge, tu sais, le roi inversé puis tout ça là, ben il s'est inspiré de des éléments quand même mythiques réels que les Français avaient à une certaine époque, tu sais, les Francs qui venaient des Troyens puis tout ça. Mais lui, il l'amène une coche plus loin. En fait, il faut toujours se rappeler que David B aime bien nous faire visiter ses rêves, hein, puis c'est comme si on vivait un rêve hyper long là, avec son style de dessin qui fait au bout pour ça.
Moi, ça m'a rappelé Fred.
Oui, t'as raison, tout à fait.
Dès que t'acceptes le fait que, tu sais, Philémon, il va voyager dans les lettres de l'Atlantique, là, c'est le même principe avec lui. Et d'ailleurs, il y a des lettres. Oui. Non, je dis ça comme ça, là, mais il y a des lettres.
Comme on dit chez les complotistes, tout est dans tout.
Alors, quatre livres sur le complot, vous aurez compris, je pense, quatre livres qui ouvrent à différentes et différents types de discussions. Je pense qu'on revient à chaque épisode avec cette conclusion-là de à quel point, mon Dieu, on s'oriente vers quatre regards et quatre appropriations différentes de ce thème-là. Et les quatre appropriations, bien, vous pouvez les faire aussi. Je pense que vous avez compris que ces quatre livres qu'on vous propose à divers degrés d'intensité, mais tous dans le très, très, très positif, je pense, et le supra-positif selon le cas. Alors, je rappelle les quatre titres. Donc, on a « Le complot, l'histoire secrète des protocoles des sages de Sion » de Will Eisner chez Grasset. On a « Dilemma » de Clark au Lombard. On a « Sacrée sorcière » de Pénélope Pagieux d'après Roald Dahl chez Gallimard. Et « Les incidents de la nuit », trois tomes de David B. chez l'Association. Alors, c'était le club de lecture de novembre. Marco Duchesne, Édouard Tremblay, Jérôme Vermette, un grand merci à vous trois. Et on se retrouve le 17 décembre pour le dernier club de lecture de 2021. Alors, ben voilà, c'était Raymond Poirier au micro. Passez une excellente semaine. Ça a été un plaisir d'être avec vous pour La Vie en BD. Et je vous rappelle, lavieenbd.com pour retrouver les émissions en rediffusion.